Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est ça.
On est de retour dans Du Pont le matin. Alors Ray, j'ai pour toi ici mes deux terrains de mon verre McDo de ce matin.
C'est quoi?
C'est bon, on a une chance sur cinq. Tu sais, la publicité, c'est qu'on a une chance sur cinq de gagner. Fait que j'ai Robinson Street.
Quelle couleur, ça?
C'est vert.
OK.
T'es rendu, t'es connu par cœur. Puis la baie de Fundy.
On est rendu à 6,
ouais.
Hein, je pense.
Fondy, là. Oui, monsieur, c'est populaire.
Mais c'est impressionnant, ce concours-là, qui a été lancé il y a plusieurs années, là, comment ça a été attractif chez les clients McDo.
Le vois-tu le matin à ton heure, ça, c'est intéressant?
Non, parce que là, c'est très, très tôt.
Pas plus de clients.
Puis je sais pas là si cette attraction-là a pas diminué peut-être avec le temps, mais au départ, quand ça avait été lancé, il y a plusieurs années, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, Pierre, tu as retrouvé un texte du New York Times, c'est ça?
Oui.
Qui parlait de cette loterie-là et qui avait causé ben des problèmes.
Écoute, on aimerait ça t'écouter notre ami Nicolo. Elle parle Nicolo.
Quand Nicolo ouvre la porte, le thème part, c'est automatique.
La vie arrête autour, c'est comme le parrain pour vrai.
C'est le parrain pour vrai, c'est lui qui mène. Non, mais donc, tu as trouvé un texte du New York Times.
Oui, en lien avec le documentaire qui a été produit par HBO. C'est un documentaire en 6 épisodes qui a été produit l'an dernier, si je me souviens bien. Puis ça nous rappelle l'histoire au grand complet. Je pense que tu voulais revenir, j'ai le texte en appui. Tu veux que je le raconte, tu racontes?
Ouais, non, vas-y,
tu
vite,
vas
vite avec les grandes
ça?
Lignes.
Parfait. Le stratagème a duré une douzaine d'années de McMillions. Là, on parle ici de Jerry Jacobson. Ok, c'est un homme qui a volé pour à peu près 24 millions de dollars dans cette histoire-là. Donc, sur 12 ans, lui, au départ, ce qu'il avait, c'est qu'il était en charge de garder les collants, les petits collants qui vont sur les différents produits McDonald's et de les livrer, et les collants importants, là. Pas ceux qu'on a pognés à matin, ceux qu'on pogne pas.
C'est
lui qui était responsable de ça. Et lui, il devait envoyer ça aux endroits où on préparait les emballages puis tout ça. Mais vous comprendrez que ça c'était pas lousse comme ça. Et au final, il y a plus de 50 personnes qui ont été arrêtées en lien avec cette histoire-là.
Oui, parce qu'il vendait ça à des membres de sa famille, à son entourage. Lui.
Exact.
Lui, là, il se promenait avec une mallette, là, puis il dit, là, j'ai tel terrain ici, celui-là t'a garanti de gagner
tel
montant d'argent.
C'est quoi le montant qu'on peut gagner? Ben, c'est 10 millions de dollars.
Je pense que ça a changé, là, regarde
10 000
ici.
Piastres cash, c'est marqué sur
le verre. Ouais, 10 000 piastres en argent à gagner.
Aussitôt qu'il y a des montants d'argent quand même, c'est quand même un montant important, là, gagner 10 000 piastres.
Puis, dans les exemples...
pour faire
non,
du cross-oriel.
Mais c'était pas comme ça, c'était en millions à l'époque.
Oh, oui. Écoute, par exemple, là, l'exemple de 10 000 $ là, il l'a vendu à son beau-frère, qui est un boucher. Bon. C'est une pièce de 10 000 $, il l'a vendu 2 000. Mais à son neveu, il a vendu une pièce de 200 000 $ pour 45 000. Ouais. Vous comprenez que ça s'est accumulé, puis c'est pour ça qu'on parle de 24 millions au total.
Fait que lui, à force de vendre, il faisait plus que les montants en prix.
Exact. Tout le monde était content,
puis
sauf
lui,
les autres.
Il est responsable de la sécurité et du transport des étiquettes gagnantes.
Exact.
Et c'est comme ça qu'il avait réussi à frauder. Mais regarde, tu sais, des fraudeurs comme ça, ça c'est un exemple parce que c'était évidemment à travers les États-Unis une des grandes fraudes, puis une fraude qui touchait l'imaginaire parce que là, t'sais, les gens participaient parce que au départ du documentaire d'HBO, ce qu'on voit, c'est l'impact. Quand le Monopoly McDo arrive, il y a une augmentation des ventes.
C'est clair.
Automatique.
Monopoly, c'est un brand qui est vendeur. Les gens ont confiance en ça. Les gens adorent ce jeu-là. C'est clair que ça a un impact.
Breaking news, je viens de gagner un petit bing.
Oh!
Yes!
Vas-tu, c'est pas un cours en ligne de deux semaines que tu as gagné, toi, comme Stéphane et notre auditeur ici?
Oui, moi, j'avais gagné ça, le cours en ligne. Parce que la réalité, il faut regarder dans ça. Là, quand on organise un concours, qu'est-ce qui marche? Tu sais, mettons que McDo dit, on va donner, je sais pas, tant de millions en prix.
Oui.
Est-ce qu'on le donne en bang, en repas. Tu sais, on pourrait donner des trios McDo, là. Tu sais, ils disent qu'on a une chance sur cinq de gagner. Ouais. On va donner un café, un trio McDo, ouais, un bang, un croissant.
Le petit bang, là, que je gagne, là, ils le vendront pas. Ils me le donnent.
Ils te le donnent. Bon, mais ça leur coûte un certain montant, c'est tu comprends?
Mais pas tant que ça.
Puis en plus, tu vas peut-être acheter autre chose avec.
C'est possible.
Mais ce qui attire les gens, c'est la possibilité de gagner des gros montants.
Ouais.
Mettons que nous autres, on se dit ici dans Dupont le matin, on organise un concours. Est-ce qu'on fait un concours où on va donner 10 prix de 1000 $ ou on va donner un prix de 10 000? Mettons à la hauteur de nos moyens, là. On est bien plus winner avec un prix de 10 000. C'est ça qui est incroyable. Mmh. Puis le 649 ou le Québec, je joue pas trop les noms des loteries, là. Vous savez, là, on bat des records, hein? 60 millions, 50 millions, 40 millions. Il y a eu des gros lots. Et lesquels ont été les plus vendeurs?
Les gros lots.
Ben oui. Quand il y a 3 millions à gagner, ça, on dirait que ça intéresse pas le monde. Mmh. Pourtant, 3 millions, ça aurait un impact majeur sur la de n'importe qui gagne.
Les gens qui jouent à ça, je sais pas s'il y en a des comme moi, mais moi, j'ai bien plus de fun à gagner un trio ou une frite ou un café que le terrain de la Baie Fundy pour la sixième fois. André, j'y crois tellement pas que je vais gagner que moi, peut-être pas le cours en ligne, là, mais
ça reste que les gens sont attirés par les gros montants.
C'est sûr.
Le Powerball aux États-Unis est le plus bel exemple.
Oui.
C'est la loterie qui a connu une des progressions les plus fulgurantes il y a quoi, 10 ou 15 ans?
En fait, aux États, il y a deux loteries, souvent deux loteries en parallèle. Chaque État a sa loterie. Puis la Powerball, sauf erreur, c'est all around the United States of America.
Oui, c'est partout. Powerball, puis l'autre, elle s'appelle comment, donc, selon l'État? Je suis boulant, je m'en souviens pas. Mais le Powerball, là, c'est quoi, 600 millions, là? Ouais, hey, je pense qu'ils ont pogné le milliard.
C'est ça que c'était rendu ici, à un moment donné, au Québec, c'était ça?
Moi, je me souviens que Dan Pou avait acheté des billets en nombre. Moi, j'avais acheté des billets.
Faut se rendre aux États-Unis. Puis moi,
on avait acheté Internet.
Hey, ça faisait la ville en bas ici, à station.
Mais c'est vrai que Dan avait acheté aux États-Unis, mais moi, j'avais acheté sur Internet, je me souviens.
T'avais acheté sur Internet?
Ouais, je peux retrouver.
Fait que, moi, je suis pas un joueur de loterie.
Mais milliard.
Le milliard. Ouais, mais c'est ça, 1 milliard, ça nous tente. Mais 3 millions, ça fera bien dans ton compte de banque?
Ça ferait bien.
Mais tu joueras pas pour toi. Mais
t'as joué pour 10 000.
1 million, ça ferait bien dans mon compte.
500 000.
Même pas besoin de 3, je suis pas gourmand.
Mais tu sais que je te souhaite pas ça.
Non, tu serais malheureux.
Écoute bien, Nico.
Tu serais malheureux.
Non, c'est correct, moi, j'en ai pas à peu près d'amis, là. Fait que je me ferais pas achaler.
Non, pas rien que tu ferais pas achaler, tu serais pas heureux. Là, je le dis, tu serais pas heureux.
Je suis prêt à essayer, puis je te donnerai raison.
Ah, si c'est bon.
Non, tu seras pas heureux. Moi, je viens de gagner un beigne, là, puis je me sens un peu moins bien.
Oui, as-tu reçu des appels?
Oui.
As-tu des gens qui veulent une part de ton beigne?
Ça souhaite pas ça.
Moi, les gens que je connais qui ont gagné 1 million, j'ai l'impression que je dis pas qu'ils sont malheureux, mais plusieurs sont pas aujourd'hui, plusieurs années après, dans une meilleure situation.
C'est sûr que ça peut empirer les choses, ça peut garder les choses ou te ramener où t'étais avant le million, parce que si t'as jamais eu d'argent, puis c'est un peu comme le.
Tu vas virer fou.
Quand on donne des permissions aux militaires, ils se défoulent, là, ou en tout cas, c'était le même dans le temps. Ça se peut, là, évidemment, que tu vires fou un peu. Faut que tu te fasses conseiller, je pense, mais. Je suis quand même prêt.
Tu prendrais la chance d'essayer.
Oui, je suis content que tu veuilles essayer.
Cobaye, quand tu veux.
Est-ce que tu nous quitterais automatiquement?
Non, sais-tu quoi, Stéphane? Sincèrement, et je l'ai dit souvent. D'abord.
Je quitterais Trudeau Landry.
1 million.
Il l'a dit souvent.
D'abord, 1 million, c'est plus le montant que c'était
il y a
quelques décennies. Je choisirais mieux ce que je fais, mais je pense pas que je quitterais la radio. Mais
t'es indépendant de fortune. En ce sens que là, tu décides
mais
ce que tu veux faire.
Mais pendant combien d'années t'es indépendant de fortune?
T'es indépendant. En 1 million, si t'es indépendant de fortune, tu gères ça comme faut.
À notre âge,
mais tes activités.
Ray, 1 million.
Tes activités, Pascal, tu choisirais tes activités.
Pascal,
t'as bien le droit d'en venir.
Pas indépendant de fortune si,
si tu gères bien ça.
Oui.
Wow. Je pense que oui.
Arrêtez.
Attendez ce que vous. Mettons là que tu prends pas une scène puis que tu places ça.
Mais là, 5%, c'est une mauvaise année, là.
Ouais, ça fait combien?
Mais ça fait 50 000, d'abord.
Ouais, mais moi, j'estime, là, que c'est à peu près le revenu que tu vas avoir annuellement, bien placé
ton million.
Place ton million.
Il te reste ton million?
Oui, il te reste
ton
million.
Mais tu peux pas y toucher.
Mais t'as rien qu'un revenu de 50 000 par année?
Mais Stéphane, 50 000 par année.
Non, je sais, mais t'es plus.
T'es pas indépendant de fortune.
C'est ça, c'est pas le risque.
Ton million encore?
Oui, t'as ton million encore.
Mais faut pas que tu y touches parce que tu veux ton 50 000.
Fait que t'as des paiements.
Tu peux y toucher un petit peu si tu veux. C'est pas grave. Là.
Ben oui, mais tu vas diminuer ton revenu.
Si vous êtes pas capable de vous arranger avec 1 million, vous serez pas mon ministre des Finances.
Non, j'ai pas dit ça. Je te dis juste que tu n'as pas le rythme de vie d'un millionnaire.
Oh, mais ça dépend là. C'est sûr, c'est relatif.
Ils mettent des affaires de plus à chaque fois.
Ben oui. Mais t'es indépendant en ce sens que là, tu peux faire ce que tu veux de ta journée, puis t'as pas de problème financier.
Ouais.
Tu peux t'en créer des problèmes financiers, ça, je suis bien d'accord avec toi. Aujourd'hui, là, on peut s'installer, toi puis moi, puis trouver des idées pour se créer un trou financier. Je suis bien d'accord.
Mais j'ai failli que ça, creuser des trous financiers.
Ton indépendance financière, c'est si t'arrêtes de travailler.
Comment?
Si ton indépendance financière, là, elle peut peut-être...
Pouvoir arrêter de travailler, voyager,
tu peux te partir une compagnie, tu peux te partir
bien des affaires avec un million. Et voilà, tu peux faire ce que tu veux.
Oui, mais si tu prends pour partir une compagnie, là, puis t'en parleras des anciens joueurs.
100 000, mettons, pour te partir un petit quelque chose, manque ton coût, pas grave, il en reste 900.
Oui, mais t'as plus ton 50 000 de revenus, t'es encore un peu en bas, tu comprends? C'est, tu peux plus voyager pour avoir une maison en Floride.
Là, ça a pris une chance avec ton 100 000. Tout d'un coup, ça marche.
Vous cherchez des façons que ça marche pas.
Ah, c'est ça. On est 3 contre 2.
Moi, non, mais je veux juste vous dire que c'est tellement... Creuser des trous financiers, non, c'est ma spécialité. Je fais ça pas de pépine. Hein? J'ai pas de pépine encore.
À cuillère.
On peut se mettre en faillite d'ici midi, toi puis moi. Là.
Ben, tu sais, il y a des joueurs de la Ligue nationale qui ont fait faillite.
Ben oui, c'est facile.
Je regarde
ben oui,
le rythme Mike de Padano, vie des fois que j'ai. Écoute... Comment je te dirais, il y a des gens qui se sont enlevés la vie là, dernièrement, là, dont on m'a raconté les histoires en fin de semaine. Et tu sais, c'est des gens pourtant, tu dis, ah, ouais, ils étaient dans ce milieu-là, ils gagnaient ça, mais il y a jamais. Puis là, à cause de la pandémie, il y a eu une diminution des revenus. Jamais été capable d'adapter son niveau de vie aux revenus qui s'étaient abaissés. Puis là, ça a créé plus certains autres problèmes personnels.
Mais c'est vrai qu'on s'habitue à tout, y compris à un niveau de vie. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais si tu peux garder les deux pieds
sur... au-dessus. Ben, c'est toujours en augmentant.
Bon point.
Parce que si on s'habitue pas aussi vite à un niveau de vie en dessous.
T'as raison.
Je peux vous en parler.
J'ai écouté la chicane autour de Whitney Houston. Puis je pourrais vous nommer des artistes jusqu'à demain matin. Là. Comment... Ils ont gagné des millions. Puis que, tu sais, même Michael Jackson, quand il meurt, dans sa fortune proche de lui, c'est pas si astronomique que ça. Ses catalogues valent d'argent. Il valait énormément d'argent. Mais lui, dans sa gestion personnelle, il avait tellement perdu le contact avec la réalité qu'il était plus capable. Tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que on peut tellement facilement l'échapper.
Oui.
Puis tu sais, j'en ai vu là.
Mais c'est des deux côtés.
Si c'était ouais,
quand mais t'as de l'argent puis quand t'en as pas.
Si on se donne un million à tous nos cinq ici, là, la gestion sera pas la même là, pour tout le monde. Là.
Il n'y en a plus pour Stéphane après deux heures.
Moi, je pense que tu serais. Je connais pas beaucoup Nico là, dans sa gestion financière. Je pense que moi, en tout cas, dans vous autres, là, t'es le seul qui pourrait réussir à bien s'en tirer.
Oui.
Mais t'es plus avancé en âge un petit peu. Mais les autres, j'ai vu des jeunes. Et si c'était...
Un million.
Si c'était payant.
Oui, mais toi, tu te fais... Toi, on te donne de l'argent parce que tu fais des lifts à des jeunes. Là. Nous autres, on n'a pas ces revenus-là.
Oui, c'est ça. C'est différent. Tu sais, j'aimerais ça que l'Auto-Québec nous ferait des portraits des gagnants. Ça serait-tu le fun? Vous souvenez-vous du gars de la Basse-Côte-Nord qui a gagné plusieurs millions, qui rêvait d'aller voir l'Avalanche du Colorado? Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'avait marqué. Souvenez-vous de ce gars-là? Le jeune homme de la Rive-Sud.
Il veut pas nous parler. J'ai fait full de démarches.
Moi, je pense qu'il y a une raison pour
quoi... Tu parles du gars de la
Rive-Sud? Oui, ben l'emballeur.
Comment?
Je pense qu'il y a une raison pourquoi ils en font pas tant des suivis.
Ben oui. Ceux que je connais... Parce que j'en connais. Je suis déjà allé ramasser un chèque de 5 millions à l'Auto-Québec. C'est que ceux que je connais, c'est pas toujours, c'est même rarement de belles histoires.
Le petit commis d'épicerie. Il n'y a pas un commis d'épicerie.
Mais
oui, c'est
parler.
Lui l'emballeur. C'est lui,
mais ça va bien, toi, petit commis. On aimerait ça le savoir.
Ouais, mais.
Et puis, c'est.
Ça a l'air qu'il t'a toute qu'une maison à Briqueville. Ça a l'air. On est dans le même érage. J'aime ça, le même érage. Ça a l'air qu'il y a de. Puis, il a fait en plein COVID, il a fait un gros party. La police est allée. Puis là, il a offert de l'argent pour essayer de.
Ça, c'est du même érage, c'est vrai, là.
C'est assez du même érage.
Ça serait important de le dire.
Ouais, c'est dans quel niveau de tes sources?
Déjà, une maison, ça y fait un accident.
Dans mes sources,
c'est pas grave.
Mais c'est vrai ce que Reed dit.
Non, j'invente rien.
La maison, ta clanche est à toi, là, et puis à la banque.
Ouais.
C'est un actif.
C'est un actif, mais certains. En même temps, il arrive un temps, puis si t'es obligé de t'en débarrasser, ton actif vaut plus la même valeur.
Bien sûr.
Puis souvent, dans ces affaires-là, t'achètes de quoi, puis c'est pas vrai que c'est un investissement à long terme tout le temps. Fait que ça dépend comment
c'est. Même si c'est acheter une maison payée à Briqueville, il est quand même pogné quand le pont traverse pas, puis quand le trafic...
Il va construire son pont.
Il
va construire son
pont.
Il est à Briqueville aussi, là.
En 2000, c'est un coup de fil anonyme en 2000 qui a mis un terme au stratagème de McMillion. Un agent qui était à Jacksonville a contacté McDo. Il a dit, là, on va faire une... Oui, on revient à la fin de l'histoire.
Oh, logique circulaire, c'est la force de cette émission.
Et il disait, on va faire une enquête partout au pays. Parce que là, moi, en 2001, je viens de trouver là trois gagnants dans quelques mille à ronde à Jacksonville. C'est louche, c'est louche. Mais là, McDo, va falloir que vous leur fassiez une année de plus le problème. Le concours, qui est devenu un problème d'ailleurs. Parce qu'on a besoin de preuves. Fait que McDo, cette année-là, a refait le McMillion, sachant qu'elle allait se faire enfirouaper par leur ancien sous-traitant, disons ça comme ça. En août 2001, on a arrêté 8 suspects majeurs là-dedans. Ils ont été amenés à procès. Puis l'homme en question, là, M. Jacobson, finalement, ce qu'on a découvert, c'est qu'il avait volé jusqu'à 60 morceaux différents pour le McMillion au fil des années. Il a été condamné à... En fait, il a fait 37 mois de prison. Il a payé 12,5 millions de dollars en amende. Puis là, maintenant, il est dans les 70 ans, puis il est reclus là, en Georgie, aux États-Unis. Wow. Donc,
ça arrive à tous les niveaux. Ça n'avait pas sorti très, 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 très fort ici. Puis je me souviens, Jacques Tanguay m'avait appelé pour me dire, ça ferait bien sur ma tailleule. Ouais. Tu sais, puis je le fais pas négativement. C'est parce que ça arrive. Vous souvenez-vous, chez Tanguay, il y avait « va valider ton code barre ». Tu sais, on était moins tourné vers l'informatique. Vous souvenez-vous de cette histoire-là?
Ouais.
Tu sais, là, tu recevais un code barre par la poste, puis tu te présentais dans magasin Tanguay, puis tu pouvais gagner un téléviseur, entre autres. C'était ça le grand prix, là. Ouais. Un téléviseur d'une valeur de plus de 1000 piastres.
Il y a 8-10 ans, à peu près, là?
À peu près. Fait que, puis c'était quand même très populaire et les gens se déplaçaient. Je me souviens de l'avoir fait. Tu grattais le code barre que tu recevais chez vous, mm-hmm. puis tu allais le valider. Canadian Tire ont fait ça aussi, là, où tu avais un rabais instantané, mais que tu devais gratter uniquement à la caisse, tout ça. Ces codes-barres-là, veut pas, tout comme les étiquettes McMillion de McDo, sont fabriquées et imprimées quelque part.
Mm-hmm.
Puis il y en a un dans la chaîne, lui, qui a catché à un moment donné, un matin, qui est en train d'imprimer les codes-barres. Ah. Mettons que Tanguay dit, on va donner 200 téléviseurs, OK, de 1000 $, mettons.
Dans batch.
Fait qu'il imprime 200 coupons gagnant. Pour des téléviseurs gagnants. Mais là, il en disparaît 50. Fait que, tu te rends pas compte, eux autres, là, c'est mélangé à travers tous les envois postaux. Mmh. Puis il y a un système de mélangeage pour qu'il y en ait un peu partout. Fait que, ça reste de même. Puis là, on est sur la rive sud de Québec. Puis, il y a une chambre de hockey. Là, un gars, il est assis dans la chambre de hockey. Et là, je joue avec vous autres. Moi, je suis dans la ligue. Nico, tu joues avec moi. Nico, t'aimerais-tu ça? Un téléviseur, un Sony, ça vaut 1000 piastres. Flambant neuf chez Tanguay, tu vas le chercher direct là. Je te le vends 400.
Ça se l'aille.
Fait que le gars, il vendait les coupons. C'était pas 400, mais il vendait 600 piastres. Il vendait les coupons 600 piastres. Fait que tu partais avec ton code barre, puis t'allais le faire valider, puis tu gagnais une télé. Tu sais, ça a pris du temps tabarouette avant qu'ils s'en aperçoivent, puis qu'ils pognent le bon gars. C'est qui avait volé le code barre gagnant? Fait que c'était majeur comme crime.
Est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit?
C'est ça.
Il n'y avait pas un gars aussi qui, je me rappelle pas, là, aidez-moi, là, qui volait des trucs à son employeur, que ce soit une quincaillerie ou un magasin de meubles, j'ai perdu, puis il mettait ça dans le garage de ses parents. Puis ses parents ont dit, j'ai jamais vu ça. Puis il y avait, jamais vu ça. Puis il y avait plein de stocks neufs. Puis le jeune, il vendait ça justement en dealant, mettons, pour un quart du prix des éléments. Non, ça dit, on travaillait ensemble. Je me rappelle que ça fait mourir.
Ouais. Oui, c'est vague, ça me dit quelque chose.
Mais il avait trouvé une façon aussi de crossailler quelque chose puis de voler du stock.
Ouais, il y a tout le temps des façons.
Pas le monde.
À Lévis. Non, mais je sais, mais les plus grands vols sont toujours faits par des gens.
De l'interne.
À l'interne, beaucoup. Moi, je raconte, parce qu'une de mes tantes, on était à Montréal, près à Pointe-Claire, elle est caissière dans un Canadian Tire. Ils ont un problème majeur de vol à l'étalage. Ils sont pas capables de mettre la main sur les gens, mais quand ils regardent les chiffres, il y a des pertes majeures.
Ils se font voler des motos Master.
Ils se font voler des... Ouais, beaucoup d'affaires. Ils sont pas capables. Il y a des caméras, il y a des agents habillés en civil. Ils pognent pas personne. Un matin, comme c'est temps-ci de l'année, c'est le matin des pneus d'hiver. Fait qu'il y a un gars qui est assistant gérant dans le Canadian Tire qui dit à sa femme, je vais aller porter mon char au garage pour les pneus d'hiver, tu vas venir me chercher puis tu vas venir m'apporter à l'ouvrage. Elle dit, oui, mais moi, je commence une heure et demie avant toi.
Faudrait qu'il soit là de bonne heure.
Dit, ouais. Ben, ah. Dis, garde, tu vas, débarque-moi en face. Il y a Marie-Antoinette en face.
Yes, sir.
M'a aller déjeuner au Marie-Antoinette.
Un Tom Pousse pour déjeuner.
Oh, c'est donc. Ça. Fait que le gars se fait débarquer au Marie-Antoinette. Il arrive là, il est une heure avant que son chiffre commence. Il dit, va prendre le journal de Montréal, puis deux œufs miroirs saucisses.
Oui, monsieur, la chronique fait, à Roger, puis elle va être ouais.
Mais là, il est assis là, puis il regarde dehors, là, je l'imagine facilement, il regarde dehors, puis il voit son contremaître ou son superviseur arriver avec son char, il se reculer sa porte de côté,
il va y atterrir,
ouvrir la valise, oh. Puis mettre du stock dans son char. Oh. Il pense même pas au début que ça peut être ça. Puis le superviseur part, puis il s'en va. Là, lui, il rentre travailler, le superviseur n'est pas revenu encore. Il fait-tu de la livraison, lui, ou... Et devant d'autres employés, à un moment donné, il dit, « Hey, je t'ai vu venir chercher du stock. » Non, c'était pas moi. Là, quand le gars nie que c'était lui, lui, il dit, « Non. » Lui, il avait pas dit qu'il était aussi au restaurant. Fait que, donc, non, c'était pas moi. T'as vu ça comment? Ah, je me suis fait dire ça. Il a fermé sa gueule, ils ont trouvé l'enquête, et le gérant remplissait son char. Un autre stratagème, un dernier. C'était au Sears à Lévis. Il a été arrêté, le gars. Je me souviens encore. Je me souviens, c'est qui que j'étais à l'école avec. Et lui, il travaillait. Il y avait chez Sears, là, tu comme, mettons, t'achetais des électroménagers. Tu devais aller à l'arrière
oui.
Où est-ce qu'on mettait ça dans
la
ton
porte.
Char ou dans ton trailer ou à la porte de prise de possession du matériel un peu plus gros. Lui, il pouvait offrir de l'argent à des gens. « Hey, vous en allez... » Là, mettons, il regardait la facture. « Vous en allez à telle place. » Je vous mettrais, mettons, une télévision ou une laveuse de plus. Puis j'ai ma belle-mère qui a acheté ça ici. Elle va aller le chercher chez vous dans deux heures.
Ça, c'est, fait c'est encore plus risqué, pareil. Hey. T'impliques un intermédiaire dans ton affaire.
Ben oui, mais lui, tu lui dis que c'est quelqu'un qui a acheté ça.
Ouais, ouais.
Tu dis, ouais. Regarde, puis la personne n'avait pas de trailer pour faire la livraison.
Ben après, la belle-mère, la sœur, le chien, le voisin, oui. Marcel.
Ouais, mais c'était jamais le même monde, tu comprends?
C'est ça, mais après,
tout le stock sortait par la porte de livraison d'en arrière. C'était terrible.
J'ai retrouvé le gars. Merci aux auditeurs. Vous êtes vraiment à l'affût là, à Sherbrooke. Et ça, on travaillait ensemble en pleine pandémie. C'est un employé du Canadian Tire qui a volé 126 000 $ de marchandises à son employeur. Lui a profité de toute la réorganisation là, causée par la pandémie pour voler peu à peu une partie de l'inventaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la livraison en deux magasins. Puis, il en droppait dans son garage en même temps. Il en laissait là. Écoute, il a volé 64 climatiseurs, 55 génératrices, 67 barbecues, 24 téléviseurs, un tracteur à gazon, un tapis roulant, des outils, un système de chauffage, puis on dit des articles de
c'est
cuisine.
C'est tout de prévoir. Quand tu es propriétaire d'une business, il faut que tu penses à tout et que tu prévois tout. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais commis dans une quincaillerie. Puis, mettons que tu ramenais, tu avais acheté un pinceau de trop, tu l'as pas utilisé, tu ramenais un pinceau. Moi, j'étais dans la peinture. Fait que la caissière préparait le crédit de 8,99 de ton pinceau et demandait le commis dans ce département-là pour deux raisons. Lui qui venait voir si le pinceau avait vraiment pas été lavé puis remis dans, tu sais, dans ton département, tu savais si ça avait pas été utilisé ou pas. Même affaire avec les pièces électriques ou la plomberie ou tout ça. Et aussi, c'est que ça faisait deux personnes qui autorisait le crédit. Donc, ça prenait un stratagème pour voler. Moi, j'ai un ami proche qui a perdu son commerce à cause de vols comme ça. Ben, il y a eu d'autres petits pépins, là, mais entre autres ça, parce qu'il y avait personne qui autorisait les crédits. Sa caissière, c'était un magasin spécialisé dans un domaine X qui vendait des articles qui pouvaient, dont plusieurs articles valaient quelques centaines de dollars. OK? Et donc, le gars arrivait à la caisse, il avait acheté 3-4 gogos à 100, 150, 200 piastres chaque. Elle apprenait ça, elle scannait, elle faisait payer, et elle prenait toujours le temps de prendre le code du code-barre en note à l'écart. Le gars s'en allait avec son produit, et elle, ce qu'elle faisait, quelques heures plus tard en journée, ou des fois le lendemain, elle faisait un crédit avec ce code-là, comme de quoi que l'individu avait ramené l'article. Mais vu que l'inventaire est pris une fois par année, tu t'en aperçois pas que de cet item-là, même si c'est assez cher, puis c'est sous clé bien souvent, il manque à l'inventaire. Savez-vous comment on a pogné la fille? Hey, puis quand ils ont commencé à compter, là, il était rendu à 10 000 quand il a pogné une heure. Il l'a pogné pour plus de 10 000 $ de vol à l'étalage par sa caissière. C'est que elle se faisait un crédit, donc avec l'item qui était pourvenu, elle se faisait un crédit sur sa carte de débit à elle. Fait que là, ils ont trouvé, voyons donc, il y a donc bien de crédit du même client. Mais c'était tout le temps à elle. Puis là, plus ils ont remonté, mais tu sais, elle faisait pas ça tous les jours. Ça faisait faire un par semaine. Puis elle ajoutait ça, et c'est des milliers de dollars comme ça.
Ça va être moins possible, ça, maintenant, avec les inventaires en temps réel. Ouais, parce que ça. De plus en plus de commerces, parce que c'est lié au site web, t'as vraiment l'inventaire en temps réel. Donc, tu sais qu'il te reste tant de tel item. Fait que ça va être...
Ils sont pas tous fiables, ouais, là,
mais
Non, mais
c'est impressionnant. J'imagine qu'ils vont trouver autre chose.
On est tous déjà débarqués au Canac voir qu'il y en a 40. Non, on n'a pas.
Eh bien, oui, mais dans quelqu'un, c'est épouvantable. Ouais, c'est épouvantable.
C'est tough, l'inventaire.
À SAQ, je le comprends pas. Ça m'est arrivé là.
Ah ouais.
J'étais allé à SAQ, voyons, le gars, il dit, on a 25 bouteilles. OK.
Il trouve pas.
Je comprends qu'ils peuvent être dissimulés quelque part.
Dans son magasin.
Dans une SAQ, là.
Mais du vol à, je dis pas que c'est ça, là, mais du vol à l'interne à la SAQ, on l'a chaque année, le chiffre, là, c'est en millions, des millions et des millions, là.
Il y a un nouveau breuvage à SAQ, là.
Qu'est-ce que
c'est? C'est comme de la crème, comme du Belize, là. Mais ça s'appelle crème glacée.
Oui, ils ont sorti ça. Quand on rentre le présentoir maintenant, c'est les crèmes à café, là, présentement. Là.
OK.
Parce qu'en plein été, à 28 degrés, ils te mettent les petits rosés. Mais là, les petits rosés, c'est plus tranquille sur le petit rosé présentement. Fait que là, ils ont mis les liqueurs de même.
Mais si tu vois ça, là, mais celle-là n'est pas à prendre avec un café, je te le dirais. Juste sur glace. Parce que c'est vraiment pas fort. C'est 23%. Oh, ouais. Je te le dis, là, ça s'appelle crème glacée ou crème à glace. Là. L'étiquette est blanc et bleu, c'est un produit du Québécois. C'est vraiment cochon. C'est vraiment, vraiment cochon.
Avec toutes les difficultés que les entrepreneurs ont ces temps-ci, imagines-tu en plus découvrir qu'un de tes employés qui te vole? Oh
mais habituellement, si t'es bien conseillé,
l'ambiance que ça doit
là,
créer dans le commerce. T'sais.
Mais les comptables, si t'es bien conseillé, ils vont te dire de prendre une réserve dans ton année, là, 2-3% de tes ventes. Là. Scratch ça tout de suite pour justement des affaires comme ça.
Mais
c'est
définitivement.
C'est prévu.
À cause de l'être humain.
C'est toi qui gères le million. C'est sûr.
Non, mais c'est une main.
C'est une main.
Puis là, on n'a pas parlé des bars, là. Si tu savais, pis là, les bars, parce qu'ils sont pas tous réouverts, puis c'est plus... Il y a des bars, vrais bars, puis des discothèques, ça existe à peu près plus, genre. Mais, tu sais, moi, j'ai été gérant d'un bar, là, pendant des années, là, et c'était épouvantable.
Ça a dû coûter cher de bière?
Non, j'étais très sérieux, j'étais très tranquille à cette époque-là, et c'était terrible. Tu sais, mettons, là, il y avait les frigidaires à bière, ben là, il y avait une serveuse qui avait catché que l'inventaire, qui contenait extrêmement serré... Mm-hmm. Elle était capable de vider, mettons, la rangée des grosses Laurentides, puis qui était assez mince pour s'étirer, puis elle avait accès parce que derrière les frigidaires à bière qu'elle avait accès, il y avait la chambre froide. Okay. C'était pas séparé, là. C'était parce que c'est le même système de refroidissement. Elle était capable de s'étirer jusque dans les caisses qui étaient adossées aux portes du frigidaire à bière et à prendre quelques bouteilles.
Qui n'étaient pas dans l'inventaire.
Oh, une autre fille qu'on avait poignée, elle pouvait aller au dépanneur. Elle achetait, mettons, 6 grosses bières qu'elle cachait dans son genre de sac de plage. Fait qu'elle vendait 6 grosses bières qu'elle mettait direct dans ses poches. C'était pas bien, là. T'sais, mettons, elle volait pour 8 piastres de la grosse bière, mais un peu 7, puis 6 fois. Puis c'était 30-40 piastres de plus dans ses poches.
Incroyable.
T'sais, mais c'était... aucune limite. Des fois, vous allez aller dans un bar ou dans un restaurant. Là.
Non, mais le monde ne type pas.
Tu vas demander un blodé 16 heures.
Ouais,
vous marquerez ça. Demandez un blodé.
Oui.
Puis là, vous allez avoir le Clamato qui va être dans une petite canette qu'on va mettre dedans. Vous allez vous dire, c'est pour acheter une grosse canisse de Clamato. Puis, mais non, on fait plus ça.
Ça parce se compte
que,
mal.
Ben oui, ça se mesure pas. Ah. Parce que la serveuse va faire, elle va servir un gars. Il y a beaucoup de monde qui, le matin, des fois, vont prendre beaucoup de monde boivent la bière le matin. Une bière Clamato. Ben là, elle va y ajouter un réduit de Clamato, mais elle va le mettre dans ses poches. Il se mesure pas. Tu comprends?
Ouais.
C'est tout le temps à repenser et à revérifier.
En tout cas, moi, mon petit beigne, là, je l'ai gagné en toute légalité.
Oui.
T'as pas acheté cette personne?
Mais je pense que tu files mal. C'est ça, la morale de l'histoire.
Tu peux le vendre à toutes les histoires, là, puis.
On nous a rappelé qu'en cette année de pandémie, il y a bien des gens qui ont fait plus que 5% aussi d'intérêt, là. Fait que si la première année, t'es capable de t'aller topper un 10, mettons. Finalement, je pense qu'on peut s'en sortir, M. Ray.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.